Beaucoup s'interrogent sur les nouveaux traitements dont on a entendu parler. Quand je suis arrivée ici, il y a une d'entre vous, Danielle Isabelle, je crois, qui est venue me dire « on va en parler là du nouveau médicament ». Alors, personne n'est mieux placé pour parler des traitements et effectivement des autorisations et des attentes d'autorisation de mise sur le marché de certains traitements que Bruno Dubois, qui va nous rejoindre. Professeur Bruno Dubois, cofondateur de la Fondation Recherche Alzheimer et qui préside son conseil scientifique, membre de l'Académie de médecine. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, dites-nous tout sur ces nouveaux traitements et ce qu'il faut en retenir.
Je vais vous dire, on va parler bien sûr du nouveau traitement. On va parler aussi de la maladie, si vous voulez bien, et on va faire le point sur l'actualité. La recherche, hier, il y avait une manifestation dans le théâtre et de Saint-Justin, et je me rappelle qu'on a parlé beaucoup de l'espoir et de l'avenir. Et c'est ce que je voudrais vous entretenir maintenant, c'est de l'espoir et de l'avenir. Alors, si on reprend un peu l'historique, je dirais, bon, mis à part ce livre, mais mon ami Bernard Croisil a aussi publié un très beau livre à Odile Jacob, il faudra que tu m'envoies la photo pour que je puisse le rajouter, dans ce livre que j'avais écrit il y a quelques années, sur la maladie d'Alzheimer, la vérité sur la maladie du siècle, eh bien, la question pourquoi la maladie du siècle, ça a été abordé avant par mon ami Olivier, c'est uniquement lié à l'allongement de la vie. L'allongement de la vie, c'est une conquête, bien sûr, c'est une chance pour nos sociétés modernes, bien sûr, mais c'est aussi un défi, puisque, simplement un chiffre, il faut savoir que, par exemple, l'espérance de vie au début du 19e siècle était de 40 ans pour un enfant qui naissait. Aujourd'hui, vous savez, une jeune fille, une petite fille qui naît aujourd'hui, si vous avez la chance d'avoir une petite fille qui naît, elle vivra 90 ans. 90 ans, c'est un âge auquel 40% des gens ont la maladie d'Alzheimer. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, eh bien, un enfant qui naît a 40% de risque ou de chance de développer cette maladie. Vous voyez, donc ça change complètement la vision des choses, puisque au début du 19e siècle, personne n'avait cette maladie pratiquement. Voilà. Donc une maladie de la personne, ça a été dit, mais aussi de la famille, de la société. Bon, dont la fréquence augmente, on est d'accord, on le sait. Alors ce que je voudrais tout de suite abordé, c'est bien sûr une question qui se pose, c'est celle des progrès. Les progrès. Quels sont les progrès que nous avons faits au cours de ce dernier siècle, de ces 100 dernières années, depuis la description par Alois Alzheimer de la maladie qui porte son nom en 1906. Eh bien, le progrès peut-être le plus important, c'est que l'histoire naturelle des lésions de la maladie est connue. Vous voyez, les lésions débutent au niveau de cette petite structure que j'ai grisée sur cette slide, à gauche, vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'hippocampe. L'hippocampe, c'est un peu, si vous voulez, la porte qui ouvre la banque du cerveau. Quand la porte est fermée, les informations que nous vivons ne peuvent pas rentrer dans la banque. Vous voyez. Et c'est ce qui se passe chez nos patients, c'est que, à cause de l'atteinte précoce de l'hippocampe, tout ce qu'ils perçoivent, tout ce qu'ils lisent, tout ce qu'ils entendent, tout ce qu'ils voient, eh bien, ne peut pas être transformé en mémoire puisque ça ne va pas rentrer dans la banque. Donc ça reste, la photographie est prise, ils voient, ils comprennent, ils entendent, mais ils ne peuvent pas transformer le présent en passé. Ils ne peuvent pas, si vous voulez, accéder aux souvenirs. Alors, transformer en souvenir. Alors vous avez donc cette atteinte hippocampique qui est l'atteinte qui va rester finalement assez longtemps. Et on le sait maintenant parce qu'on a décrit cette phase débutante de la maladie d'Alzheimer pendant d'assez nombreuses années. Et ce n'est qu'au bout d'un certain temps, vous voyez que les lésions, vous l'avez sur le cerveau du milieu, les lésions vont envahir progressivement le cerveau et toucher l'ensemble des aires du cortex cérébral, c'est-à-dire des régions dans lesquelles sont organisées les grandes fonctions du cerveau, c'est-à-dire langage, bien sûr, la reconnaissance des visages, l'orientation temporelle et spatiale, et puis aussi la sensibilité, l'affectivité, puis aussi la motivation à agir, et puis aussi des troubles du comportement. Voilà, donc petit à petit, on va voir, si vous voulez, les troubles de mémoire s'enrichir d'un certain nombre de fonctions, et le sujet va progressivement perdre son autonomie, c'est-à-dire qu'il ne sera plus capable d'être autonome, d'être indépendant, il faut qu'il soit aidé, Et c'est ce qui détermine en médecine un stade qu'on appelle le stade de démence. Alors c'est un mot malheureux, mais c'est un terme médical. Ça n'a rien à voir avec la folie, ça n'a rien à voir avec le fait de perdre la raison, c'est simplement le fait qu'on n'est plus autonome. Un sujet qui n'est plus capable de se déplacer seul, un sujet qui n'est plus capable de répondre au téléphone, un sujet qui n'est plus capable de prendre ses médicaments tout seul, eh bien il atteint ce stade de perte d'autonomie, et c'est ce qui détermine pour nous médecins ce stade de démence. Maintenant on l'appelle un peu différemment, mais c'est un peu la même chose. Alors, donc, il faut bien comprendre qu'il y a finalement deux grandes périodes dans l'évolution de la maladie, et mon ami Bernard Coisil après vous parlera d'une de ces phases, probablement la phase des prodromes, la phase des troubles, qu'on appelle les troubles cognitifs modérés, si vous voulez. Vous voyez, cette phase dans laquelle la maladie est uniquement limitée à un syndrome amnésique, à des troubles de mémoire. Vous voyez, pendant de nombreuses années, vous voyez, le syndrome amnésique est inaugural, lié à l'atteinte précoce des formations hippocampiques. Je pense que vous avez tout compris, hein, c'est relativement simple. Vous voyez. Et puis, secondairement, voilà, associé à d'autres problèmes, à d'autres troubles, vous voyez, qui va aboutir à une perte d'autonomie, la démence. Voyez, donc, c'est important de bien dissocier les deux, parce que si on parle de cette phase débutante, la phase des prodromes, évidemment, dans cette salle, un certain nombre de personnes sont naturellement inquiètes en se disant, mais finalement, il est en train de nous dire que le fait qu'on perde un peu sa mémoire, c'est le premier stade de la maladie d'Alzheimer. Donc c'est important qu'on mette bien les choses au point, bien les choses au point pour que vous compreniez bien de quoi on parle. Quand on parle de syndrome amnésique, on parle d'un trouble très particulier qui sera développé tout à l'heure par Bernard. C'est un trouble très particulier, ce n'est pas uniquement le fait de se plaindre. Le fait de se plaindre, ça ne veut pas dire forcément qu'on a une maladie de la mémoire. J'oublie tout, est-ce grave? Tout le monde se pose la question. D'accord. Généralement, je pose cette question-là. Que ceux qui ne se sont jamais plaints de leur mémoire lèvent la main. Une personne. Moi, si j'étais vous, je serais inquiète, parce que si vous êtes la seule, c'est pas normal, finalement. Moi, j'en conclus que c'est normal de se plaindre de sa mémoire. Donc, ceux qui ne se plaignent pas, hein, c'est quand même un peu inquiétant. Bon, ben voilà. Et vous allez voir pourquoi c'est inquiétant. Je peux le dire parce qu'elle est jeune, et donc je suis très tranquille. Voilà. On avait fait une étude il y a quelques années avec une de mes élèves, Agnès Michon, que tu connais. Agnès Michon, à l'époque, c'était dans les années 90 qu'on a fait ce travail-là. Mais c'est un travail intéressant, je suis heureux de vous le présenter. Vous voyez, vous avez deux lignes. On va regarder la ligne du haut. La ligne du haut, ce sont des gens qui se plaignent beaucoup. Vous voyez, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais si vous voulez, c'est une échelle, on mesure l'intensité de la plainte, vous voyez. Alors, en haut, vous avez des gens qui se plaignent beaucoup. Oh là là, ils sont très plaintifs, comme vous, ils se plaignent beaucoup, d'accord. Enfin, comme moi, en tout cas, parce que moi, comme je dis, je fais de la recherche. Pas de la recherche scientifique, je fais de la recherche d'iPhone, de clés, de journal, d'emplacement de ma voiture, enfin voilà, je fais de la recherche. Bon, voilà, donc moi, je me plains aussi, vous voyez, on se plaint beaucoup, d'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des gens qui, ce groupe de gens, c'est des gens qu'on a vus à l'hôpital, ils sont déprimés. Voilà, ils sont déprimés. On peut se plaindre et pas être déprimé. D'accord. Mais là, c'était des gens qui se plaignent et qui étaient déprimés. Et vous voyez peut-être, après, il y a un chiffre, c'est le MMS. Le MMS, c'est un petit test qu'on fait pour savoir comment le cerveau fonctionne. Eh bien, ces gens, ils avaient en moyenne un score de 29 sur 30. C'est-à-dire comme nous. C'est parfaitement normaux. Ils se plaignent beaucoup, et ils sont pourtant parfaitement normaux. Et puis au-dessous, vous avez une deuxième ligne, en bleu. Alors ça, c'est celle de gens qui ne se plaignent pas du tout. Ils ne se plaignent pas du tout, ils n'ont aucune plainte. D'accord ? Mais quand on regarde leur score, dans la petite échelle du fonctionnement du cerveau, ils sont à 20 sur 30. Donc ils ont, eux, des troubles de mémoire. Donc le paradoxe, c'est que ceux qui ne se plaignent pas, finalement, c'est eux qui ont des troubles, et ceux qui se plaignent n'avaient pas de troubles. Ce qui est bien que à cette époque, j'avais dit, tu te rappelles peut-être de cette phrase, mais j'avais dit de façon un petit peu excessive, mais il y a quand même une idée derrière, et je la lis parce que ça entraîne certainement une détente dans la salle. Plus on se plaint de sa mémoire, moins on a de risques d'avoir la maladie d'Alzheimer. Voilà. Toujours mon petit succès quand je dis ça. Mais c'est intéressant parce que c'est vrai, il y a du vrai derrière ça, vous voyez. Donc il ne faut pas être inquiet quand on se plaint. Je ne vais pas rentrer, je ne suis pas là pour faire la présentation qui sera peut-être abordée après, on pourra le faire une autre fois, mais On sait à quoi ça correspond. Cette plainte que vous avez, cette plainte que nous avons tous, c'est une plainte qui n'a rien à voir avec la mémoire, c'est une plainte qui a à voir avec l'attention, notre capacité de fixer notre attention. Évidemment, si on ne fixe pas bien les choses, eh bien, quand ça arrive à l'hippocampe, ce qui arrive à l'hippocampe n'est pas de bonne qualité, vous voyez. Mais si, nous, on a des tests qui permettent de faire la part des choses, et quand on fixe l'attention des gens, de vous, par exemple, qui vous plaignez, eh bien, on verra qu'en réalité, votre mémoire, c'est-à-dire la deuxième partie, il y a l'attention en premier temps, et après il y a la mémoire avec l'hippocampe, eh bien, cette partie-là est bonne, vous voyez. Bon, c'est un peu compliqué, mais c'est vrai, voilà, croyez-moi. Alors ça, c'est la première chose, je ne sais pas où il faut appuyer, voilà. Alors la deuxième chose qui est très importante, c'est que les lésions de la maladie peuvent maintenant être identifiées in vivo. J'ai parlé d'Alzheimer. Alzheimer, lui, il a vu les lésions au microscope de son patient. Et pendant très très longtemps, on ne pouvait pas faire le diagnostic formel de la maladie parce qu'on n'avait pas les lésions de la maladie. On ne les voyait pas, sauf au microscope. Il fallait attendre que les gens meurent pour poser le diagnostic. Et depuis 20 ans, c'est une révolution. C'est une révolution. Car maintenant, on peut identifier les lésions du vivant des patients. C'est-à-dire que madame, qui a eu la gentillesse de le voir tout à l'heure, monsieur, si vous voulez, tout à l'heure, on peut aller avec Bernard, on peut aller aux hôpitaux, comment s'appelle les hôpitaux neurologiques, oui, bien sûr, le Wertheimer, là, voilà, de Lyon, et on peut aller se faire faire un PET scan, vous voyez, et nous serons, je vous rassure, du côté gauche, c'est-à-dire le contrôle, voyez, en bleu, on sera bleu. Mais parfois, on a la surprise de voir que des gens ont des lésions rouges. C'est pas une surprise, parce que quand on leur fait le test, c'est qu'ils ont déjà des troubles de mémoire, vraiment sérieux. Et là, on voit, vous voyez, ces lésions-là, ces lésions rouges, vous voyez, ce sont les lésions amyloïdes, ce sont les lésions de la maladie d'Alzheimer dans le cerveau, vous voyez. Donc aujourd'hui, on a la possibilité de confirmer, d'affirmer le diagnostic parce qu'on voit les lésions du vivant des gens. Alors c'est difficile, alors cet examen, il n'est pas remboursé, le gouvernement nous a interdit de l'utiliser en clinique, donc on a trouvé une autre solution, c'est que le cerveau est entouré d'un liquide qui s'appelle le liquide céphalo-rachidien, et il suffit, je vous préviens tout de suite, parce que quand on voit l'image, les gens ont une réaction un peu négative, en réalité c'est une erreur, c'est une ponction lombaire, on fait maintenant ça avec des aiguilles très fines, qui sont totalement atraumatiques, ça ne fait... Quand on fait faire cette... C'est plus moi qui l'ai fait maintenant, mais quand nos jeunes internes font la ponction lombaire, je dis aux malades, écoutez, on va vous faire une ponction lombaire, si ça vous fait mal, on vous offre une bouteille de champagne. Jusqu'à maintenant, on n'a pas eu... Ah, peut-être une ou deux, mais je ne sais pas. Bon, on en fait 500 par an dans mon service. Donc c'est un geste extrêmement banal, c'est une ponction lombaire. Et vous voyez, avec ce petit examen, on recueille un peu de liquide céphalo-rachidien qui baigne dans le cerveau, et on a exactement l'information, on a la concentration des protéines amyloïdes, des protéines tau, qu'importe, on a la concentration des protéines de la maladie d'Alzheimer. Et donc, on confirme, c'est comme ça qu'on fait maintenant aujourd'hui, on confirme le diagnostic de la maladie simplement avec cette ponction lombaire. Et alors, sachez, puisque on est là pour parler de la recherche, qu'on est en train même de je ne sais pas comment ça marche, je ne sais pas, dites-moi où est-ce qu'il faut que j'appuie. Vers vous ? D'accord, excusez-moi. Et maintenant, dans le sang. Alors, nous, à la Salpêtrière, vous aussi, probablement, à Lyon, bien sûr, il n'y a aucune raison que vous ne le fassiez pas, on est en train d'isoler ces mêmes protéines dans des concentrations extrêmement, extrêmement, extrêmement discrètes, mais on y arrive. Ça y est, on commence à faire ces recherches dans le sang. Alors, on le fait en recherche, on ne le fait pas en clinique. Il n'est pas question que vous alliez, il n'y a aucune raison, bien sûr, mais aucun médecin aujourd'hui ne le fait en clinique. Mais, allez, je fais le pari, dans 5 ans, on pourra le faire. On pourra le faire en clinique, bon, pour confirmer le diagnostic chez les gens qui ont des troubles. On est bien d'accord, on est bien d'accord. Sauf que c'est encore plus compliqué, et parce que ce qu'on vient de découvrir, c'est que ces fameux biomarqueurs dont je viens de vous parler, ces fameuses lésions qu'on arrive à repérer, eh bien, on voit qu'elles sont déjà, ces biomarqueurs sont déjà positifs avant les symptômes. Alors, il faut regarder, il y a une barre verticale, vous voyez, celle où il y a le zéro, vous voyez, il y a une barre verticale, et ça, c'est le début de la maladie, le début des symptômes, vous suivez, d'accord. Le début des symptômes, c'est cette barre, d'accord. Eh bien, vous voyez que 10, 12, 15 ans avant le début des symptômes, il y a déjà, il y a déjà des changements dans le liquide céphalo-rachidien et dans le TEP, dans cet examen que je vous ai montré avant, qui montrent qu'il y a déjà donc, des lésions avant même que les symptômes ne soient là. Alors, évidemment, c'est quand même très, très, très intéressant, parce que ça veut dire, si vous avez bien compris, si vous me suivez bien, qu'on pourrait repérer chez des gens comme moi, qui, je vous assure, n'a aucun signe de la maladie d'Alzheimer, sauf que ce matin, je n'ai pas reconnu ma valise à l'hôtel, c'est un peu gênant. C'est l'hôtesse qui vient me voir, mais elle est là, votre valise. Enfin bon, tu me diras ce que tu en penses. Hein. Bon, mais, eh bien, donc, a priori, ça voudrait dire que je pourrais peut-être vérifier si je n'ai pas la maladie. Si vous voulez, je vous dis, on ne peut pas le faire maintenant, mais si on voulait, on pourrait le faire, parce que ça marche, nos résultats, ils sont bons. Donc, on pourrait savoir si je n'ai pas déjà les lésions de ma maladie d'Alzheimer. La question est la suivante. Est-ce que le fait d'avoir les lésions de la maladie d'Alzheimer détermine formellement qu'on va développer la maladie? Vous voyez, c'est ça l'enjeu. Aujourd'hui, on a la possibilité de repérer des gens qui sont normaux et qui ont peut-être la maladie. D'accord ? Mais deux choses. Qu'est-ce qu'on en fera, cette information ? Et deuxièmement, est-ce qu'elle est fiable ? Est-ce qu'on est sûr que le fait d'avoir les lésions veut dire qu'on ne développe pas la maladie? C'est la raison pour laquelle on a fait cette étude à la Salpêtrière. On a suivi 320 sujets âgés, normaux. Ils étaient normaux, ils n'avaient aucun trouble de mémoire. Ils étaient âgés, ils avaient 76 ans en moyenne, d'accord? Et sur cette population, il y en a 88 qui avaient les lésions dont j'ai parlé. Donc on a 88 sujets qui sont normaux, mais qui ont les lésions. Donc la question, on va les suivre et on va voir s'ils développent la maladie. Soit ils les développent tous, et à ce moment-là, on a la clé, et c'est facile, il suffit de faire le prélèvement, et on saura ceux qui vont développer la maladie. Soit ils ne le développent pas tous, et voilà le résultat. Le résultat des courses, c'est que, vous voyez, seuls 16 sujets sur les 88 ont développé la maladie. Et ils ont maintenant 83 ans, vous voyez, 7 ans après. C'était 2013. 83 ans. Donc, si vous voulez, ça veut dire que seuls 20% de ces sujets ont développé la maladie. Et vous voyez, ça devient compliqué, cette affaire-là. Ça devient compliqué, parce que ça veut dire que le fait d'avoir les lésions ne veut pas dire formellement qu'on va développer la maladie. Vous voyez ? Donc, voilà le problème qu'on va avoir à résoudre dans les années qui viennent. Alors, pourquoi est-ce que les gens n'ont pas la maladie ? Ben parce qu'il y a des mécanismes de compensation. Le cerveau est capable de se modifier. Il est résilient, il est capable, si vous voulez, de trouver des mécanismes de compensation. Je ne rentre pas dans les détails, c'est un peu long à expliquer, mais on l'a identifié certains de ces mécanismes. Je ne dis pas que c'est le seul, mais c'est peut-être un mécanisme. Voilà, donc, concept de résilience cérébrale. Le cerveau est résilient, c'est-à-dire il est capable de maintenir la fonction alors même qu'il y a une altération de la structure. Vous voyez ? C'est intéressant comme concept. Donc, voilà, c'est un peu la fin de mon exposé, première partie de mon exposé. Donc, nous sommes pour la création de centres de prévention du vieillissement cognitif. Pourquoi ? Parce que, là, c'est juste un déroulé, on sait que c'est un problème de santé publique, on sait qu'il y a des marqueurs diagnostiques, on sait que la prévention marche, ça sera développé plus tard, et on sait que les traitements, je vais vous en parler, les traitements arrivent. Donc, on se dit, si vous voulez, que l'avenir, c'est ça. C'est dans des structures de recherche, on va suivre des gens comme vous, par exemple, qui acceptent qu'on fasse des cohortes, qu'on les suive, vous voyez, dans des cohortes comme vous avez ici, vous voyez, des cohortes comme on a fait déjà, comme il y en a à Lyon, je sais, comme il y en aura de plus en plus, et on va suivre des gens normaux. Et on aura comme ça des bases de données. Et on verra, à partir de ces bases de données, quel est l'algorithme de prédiction? Parce que vous avez compris, c'est une équation à plusieurs inconnus. La positivité des biomarqueurs ne suffit pas. Il y a l'âge, certainement, peut-être les antécédents familiaux, peut-être certaines caractéristiques génétiques, peut-être le style de vie, peut-être l'existence d'autres facteurs de risque associés. Donc c'est une équation à beaucoup d'inconnus. Donc c'est un algorithme qu'il va falloir définir et qui nous dira, voilà, il y a des gens qui sont à faible risque ou des gens qui sont à fort risque en fonction de tel ou tel élément. Et une fois qu'on aura ces algorithmes de prédiction, on pourra, à ce moment-là, dans ces centres de prévention, cette fois-ci en clinique, recevoir des gens comme vous et moi qui voudront connaître leur risque de personnel, voyez, de développer la maladie. On appliquera les algorithmes qu'on a mis au point dans les centres spécialisés, dans les centres de recherche, et on leur dira, voilà, vous avez tel ou tel pourcentage de risque. Il faudra communiquer sur le risque, qui va être très, très subtil, mais ça permettra de faire des interventions ciblées, soit des interventions que je vais dire qui sont non pharmacologiques, il y a un certain nombre de mesures qui sont présentées dans le livre qui vous est proposé, avec des actions sur les facteurs de risque modifiables, soit agir avec les traitements. Pourquoi ? Pourquoi ? Et c'est la dernière partie de mon exposé. Pourquoi ? Parce que finalement, vous voyez, on peut donc, ça, je vous l'ai déjà dit, il y a des facteurs protecteurs, etc. Première raison. Et deuxième raison, les médicaments. Parce qu'on arrive enfin à cette période où on commence à avoir des médicaments qui sont actifs. Alors, c'est une longue et sinueuse route, hein, long and winding road, pour ceux qui sont amateurs des Beatles, c'est-à-dire une route longue et sinueuse, ça a pris beaucoup de temps, c'est vrai que ça a pris beaucoup de temps, depuis ce moment où, avec Bernard, on a vu cette image, en 2000, on a vu, vous voyez, une souris à gauche, qui était avec des lésions de la maladie d'Alzheimer, on lui a injecté un gène dans ses chromosomes qui a fait qu'elle a développé la... 3 minutes, c'est parfait. Vous allez voir. Elle a ses lésions, et on lui a injecté cet anticorps, et hop, vous voyez, elle développe pas la maladie. Voilà, c'est merveilleux, on s'est dit, ça y est, on a gagné, il suffit d'injecter l'anticorps, c'est ce qu'on appelait le fameux vaccin, vous vous rappelez de cette période du vaccin anti-Alzheimer. Et puis finalement, cette immunothérapie active, ça a entraîné des méningoencéphalites, ça a été très compliqué, donc on a décidé d'arrêter. Et finalement, on est parti sur une autre voie qui était plutôt d'injecter les antigènes, ça a été long, des échecs répétés. Bon, et petit à petit, grâce aux biomarqueurs, on a mieux défini les populations cibles, et puis surtout, on est allé vers les stades précoces. Parce que comme on étudiait ces médicaments chez des patients très avancé dans la maladie, évidemment, on n'avait pas d'effet. La maladie était trop avancée. Donc, en prenant des patients de plus en plus précoces, eh bien, on est arrivé à ce que ces médicaments soient enfin efficaces. Alors, efficaces sur les lésions, vous voyez. Alors ça, c'est une belle slide. Je vous demande vraiment de bien la regarder et garder ça en tête. Elle est quand même très, très spectaculaire. Grâce aux biomarqueurs, on peut suivre l'efficacité de ces médicaments sur les lésions du cerveau. Vous avez là trois médicaments, les trois derniers médicaments qui ont été développés dans la maladie. Et vous avez la concentration des lésions dans le cerveau au début, lorsqu'on introduit les médicaments, et pendant 18 mois. Et voyez qu'à 18 mois, 80% des lésions ont disparu dans le cerveau. Je répète, 80% des lésions du cerveau sont nettoyées par les médicaments anti-amyloïdes. C'est quand même un résultat incroyable. Et si vous avez bien suivi ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous voyez où je veux en venir. Si on peut repérer des gens qui ont les lésions avant qu'ils aient les symptômes, on va pouvoir peut-être utiliser ces médicaments, nettoyer les lésions et empêcher qu'ils rentrent dans la maladie. Sauf que, et vous avez compris, le fait d'avoir les lésions ne détermine pas formellement qu'on va avoir la maladie. Donc il va falloir qu'on repère les gens qui sont à fort risque sur la base des algorithmes prédictifs, pour choisir les bons patients pour les soumettre à des médicaments potentiellement agressifs. Parce que, c'est ce que je vais vous dire en terminant, on a effectivement des médicaments qui marchent, qui commencent à marcher un peu sur les symptômes, modérément, très modérément. Vous voyez que les patients continuent à s'aggraver, moins, vous voyez la courbe du haut, moins que ceux qui sont sous placebo, mais ils continuent à s'aggraver. C'est-à-dire que ces fameux anti-amyloïdes, ces fameux médicaments dont vous avez entendu parler, quand on les prend, on va s'aggraver. On s'aggravera moins que si on ne les prenait pas, mais on va s'aggraver. Et puis en plus, il faut quand même comprendre que ce sont des médicaments qui ont aussi des effets secondaires. Bon, je ne vais pas les développer, on répondra aux questions, mais il y a quand même des risques aussi avec ces médicaments. Et il va falloir bien les surveiller, il va falloir faire des IRM régulières, il va falloir aussi bien cibler les patients qu'on va inclure dans ces prises de médicaments. Ça va être compliqué. Voilà, l'avenir, voilà l'avenir, c'est la dernière slide. Pour moi, l'avenir est le suivant. Création de centres de prévention du déclin cognitif. Dans ces centres, on fera des recherches de facteurs de risque, vous avez compris. On pourra doser les biomarqueurs sanguins pour repérer des sujets à risque. Ça, c'est de la science-fiction que je vous fais. C'est dans 10 ans. Hein. Mais c'est pour vous montrer un peu le chemin. Communication du risque, ça va être le grand problème. Qu'est-ce qu'on va dire à ces gens qui seront positifs, dont on ne sait pas de façon formelle s'ils vont évoluer pas vers la maladie? Il faudra être très très prudent. Il ne faut pas dire à quelqu'un, vous avez la maladie d'Alzheimer, s'il ne l'a pas, et puis même s'il l'a, il est encore normal. Va se tirer une balle dans la tête. Vous voyez, donc il faut faire très très attention. Je dis ça parce qu'il y a un débat que tu as peut-être suivi avec nos collègues américains. On vient de publier un article récent là, c'est là-dessus. Voilà, parce que eux, pour eux, le fait d'avoir une lésion suffit à dire qu'on a la maladie. Ça nous permettra de sélectionner des sujets à très haut risque d'évoluer vers la maladie d'Alzheimer. Et ça permettra de faire ce que j'appelle des cures de médicaments comme ça, lorsque ceux-ci auront démontré qu'il retarde l'entrée dans la maladie sans effet secondaire important. D'accord ? Et comme ça, on pourra renouveler l'évaluation à distance et petit à petit rendre Alzheimer KO. Voilà. Je vous remercie de votre attention.
Restez une petite seconde avec moi parce que tout à l'heure, une personne est venue me demander à partir de quand faudra-t-il prendre ces médicaments ? Et je pense que la question est intéressante en effet.
Oui, alors attendez, aujourd'hui, d'abord, le médicament vient enfin d'être autorisé par l'Agence européenne. Il n'est pas encore disponible en France. Il faut qu'il passe un certain nombre par les fourches codines des processus réglementaires, autorisation en France, détermination du prix et probablement à ce moment-là, possibilité de l'offrir, entre guillemets, à des sujets qui répondront à des critères très stricts et dans des centres très particuliers, très spécialisés. Ça se fera à Lyon, ça se fera à Paris, ça se fera dans quelques centres qu'on appelle probablement des CMRR, dans des conditions de surveillance très étroites, pour des patients qui sont au début de la maladie, qui ont un MMS, comme je vous ai montré tout à l'heure, supérieur à 22, et qui ne sont pas APOE4 homozygote, qui ne sont pas sous anticoagulants. Vous voyez, il y a un certain nombre de restrictions dans l'indication. En gros, ce sont des patients relativement débutants. Voilà.
Encore faut-il savoir diagnostiquer correctement.
Ça, c'est une très bonne question. Qui va pouvoir y répondre alors ?
Peut-être, docteur Bernard.